Chalie m'était contée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Luc. Il ne veut pas parler, hein. Non. Il fait un salut, mais c'est tout.
C'est le technicien qui...
C'est le technicien.
Technicien peu causant.
Bravo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et nous continuons ce voyage dans l'abbaye médiévale de Chalie au début du XVe siècle. Et surtout, nous allons retrouver la description de l'abbaye telle que nous l'a livrée Jean de Montreuil dans un texte dont l'importance saurait vous échapper. Hein. Nous allons poursuivre cette narration en évoquant la structure de l'abbaye, les activités, mais aussi les productions agricoles. N'oubliez pas que l'abbaye, c'est un centre de production économique extrêmement important, non seulement les produits agricoles, mais aussi les produits transformés. Hein. N'oubliez pas le rôle du moulin au niveau de l'utilisation des céréales, le moulin pour les pressoirs, etc. Reprenons le texte de Jean de Montreuil. Si on m'interrogeait sur toute l'enceinte fortifiée de l'abbaye, 15 stades, dit-on, en font le tour. À l'intérieur de l'enceinte, là où il n'y a ni jardin ni pépinière, il y a deux groupes de 7 viviers. Alors, je vous rappelle, les viviers, c'est l'endroit où on conserve le poisson. Celui qui ne ment pas ajoute, et il parle des moines de Chalie, leur grenier rempli débordant de fruits de toute espèce, et un autre, les greniers abondent en récolte, avec aussi des troupeaux de gros bétail et de moutons, et ce à quoi, je n'en doute pas, tu attaches le plus d'importance, des religieux vivant dans une grande obéissance et une grande discipline, et le père abbé qui leur accorde en retour amour et bienveillance. Et ce que l'on ne doit taire en aucune manière, c'est que chaque jour, après le service de Dieu, le plus digne de respect, ils se précipitent tous au travail. Et tu peux juger avec quelle ardeur. Tu dirais que l'abbé ne dort jamais. Et tu penserais que les moines sont ses serviteurs à lui quand tu les regardes travailler. C'est pour eux que Marot, c'est l'autre nom de Virgile, a chanté fort à propos ce chant bucolique. Alors avant de l'évoquer, André, je reviens un petit peu sur le discours de Jean de Montreuil. Il dit c'est extraordinaire, il y a des richesses, de la viande, hein, des moutons, etc. Il y a beaucoup de légumes, etc. On se dit, il doit faire bonbons tous les jours. Alors, attention, on est quand même chez les cisterciens, même si on est au XVe siècle. Mmh. Et il fait un petit texte pour nous dire, non, ils sont très respectueux, ils continuent le régime, etc. Doit-on le croire? Je ne sais pas. Alors, à toi, André, pour évoquer donc le texte de Virgile que Jean de Montreuil reprend pour décliner les productions agricoles de Chalie.
Nous avons des fruits mûrs, des châtaignes moelleuses et du fromage frais en abondance. Et il n'y a personne, en aucun cas, pour me faire préférer les prunes de Damas aux prunes de Chalie. Quant aux avelines, je les mets au même niveau que les meilleures, supérieures même à celles que j'aurais pu voir ailleurs. Et j'en suis au point que si je ne dis pas la même chose du pain, des viandes de moutons et de bœufs, des fèves, des pois et des autres légumineuses, ni des choux et des autres légumes, il faudra me faire porter la responsabilité de taire la vérité. Quant aux aliments qui sont cuits au four ou à la broche, comme les chapons, les poules, les oies et les oisons, les poulets, les porcs, les cochons de lait, les palombes, les grives, les paons, les pigeonneaux, et tous ceux de cette espèce, étant donné qu'ils paraissent superflus à des hommes frugaux, j'aime mieux ne pas en parler, parce que, assez souvent, ils respectent leurs règles et préfèrent les œufs.
Vous voyez ce que je vous disais à l'instant, on est absolument étonné de la liste qu'il nous est proposée. Hein, on s'entend, ça sous-tend des banquets assez formidables, en tous les cas des ressources importantes. Alors, il prend des précautions. Hein. Mais il faut quand même dire que c'est assez souvent, quand même, il ne dit pas toujours. Assez souvent, les moines respectent leurs règles et préfèrent les œufs. Bien. Alors, il poursuit, il dit, je n'omettrai pas de raconter, bien qu'elle soit vulgaire, une anecdote qui mérite d'être mentionnée. Il y a dans cette abbaye un jardinier censitaire, c'est-à-dire qu'un locataire en quelque sorte, hein, qui vit non loin d'ici et qui, allant tout récemment à Paris avec ses chariots, comme il en a l'habitude, affirme qu'il a vendu en un seul marché, en un seul voyage, en une seule heure, pour 12 écus d'or d'eau, l'ail au pluriel,
oui, oui.
d'oignons, de poireaux, de choux et d'autres légumes verts, et qu'il est rentré tout content dans sa maisonnette, où sache-le bien, bien qu'il est voisin de forêts et d'eau, plein de gibier, il manque rarement de nourriture délicieuse. Cette anecdote nous montre aussi l'organisation à la fin du 14e, au début du 15e, c'est-à-dire qu'un certain nombre de terres ont été affermées, c'est-à-dire ont été louées en quelque sorte. Faute de moines converts peut-être, enfin il y a d'autres raisons, il ne faut pas se limiter simplement à cette explication qu'on a déjà évoquée, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et à propos du jardinier, il poursuit, et sois pas surpris par l'histoire du jardinier que je viens de mentionner. Alors que je le racontais, une fois de plus, vint à moi un homme d'une grande élégance, racontant qu'il avait vu peu de temps auparavant un autre jardinier cette maison, d'ailleurs de Chaly, à qui des graines et des semences d'oignons avaient rapporté 36 francs juste pendant la saison. 36 francs, c'est déjà assez considérable. C'est plusieurs fois le SMIC si on comparait à notre niveau de vie. Rends-toi compte du profit qu'il tirera de tout le reste des légumes en plus. Hein. Je te laisse évaluer les fermes. Alors, chez les Cisterciens, on appelait ça les granges, vous vous souvenez. À l'abondance des jugères qu'on nomme communément arpents, il s'agit de la surface, qui s'élève à 6300 et davantage. 6300 arpents, ça nous fait un arpent, on va dire, c'est quoi, un demi-hectare, mais ça aussi, il faut se méfier parce que les mesures ne sont pas les mêmes selon les régions. Donc 6000, ça nous donne plus de 3000 hectares quand même, qui sont encore cultivés en valeur directe, d'une terre grasse appartenant à la Fondation de Monataire, avec en plus quand même les vignes et tout le reste. Alors, tout le reste, c'est vague, hein, bien sûr. Et celui qui voulait en connaître le nombre voudrait dire, comme on a dit, le nombre de grains de sable que le zéphyr agite au bord de la mer de Libye. Alors là, ils exagèrent un peu. Hein. il y a autant de fermes que de grains de sable dans le désert de Libye.
Oui. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas compté, peut-être.
C'est peut-être un peu, au bord de la mer de Libye, c'est peut-être un peu emphatique.
Il est très plaisant d'entendre les vieux religieux parler des moulins qui servaient jadis à l'office des eaux qui coulent dans l'enceinte de l'abbaye. Le moulin à blé, surtout, qui par son activité produisait trois farines de qualité différente en même temps, un autre pour le foulage des différentes étoffes, un autre pour les boissons fabriquées avec art, alors que la stérilité s'est abattue sur les vignes à cause de la rigueur du ciel, un autre pour la moutarde, un autre pour tanner et teindre les peaux nécessaires à l'usage des habitants, un autre pour l'huile, un autre pour scier les grumes destinés à la construction et à la réparation des maisons. Autant dire qu'il n'est pas facile de compter les artisans très nombreux, tels que les tisserands, les tailleurs, les cordonniers, les charpentiers, les tailleurs de pierre et les frères converts qui sont attachés au monastère de toute leur vie.
Voilà, je pense que là on a une description peut-être aussi un peu exagéré, mais quand même, qui repose sur une observation de l'activité économique que j'évoquais il y a quelques minutes. Donc une activité économique qui fait qu'on est devant un centre de production multirégional. Hein. N'oubliez pas, ensuite, il fallait exporter toute cette production sur les marchés urbains, à Paris, à Compiègne, à Chantilly, à Senlis, à Asnières, enfin bref. Mais ce qui est intéressant pour nous aussi, même s'il n'y avait pas forcément autant de moulins qu'on nous le dit, en tous les cas, on a une idée des productions de l'époque, et aussi des machines hein, qui sont spécialisées. Donc ce n'est pas la même meule pour l'épeautre que pour le froment, etc. On fait aussi de la bière, il ne faut pas l'oublier. Et il explique pourquoi, hein, quand la stérilité s'est abattue sur les vignes. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas de raisin, on ne fait pas de vin. Quand on n'a pas de vin, eh bien on boit de la bière, on fait de la bière. Et la bière remplace même pendant l'office, parfois, la carence du vin. Hein. Cette bière va laisser des traces. Et pour les amateurs de bière qui nous écoutent, ils savent très bien que les bières d'abbaye sont assez nombreuses hein, autour de nous, hein, aussi bien dans l'Ordre de la France qu'en Belgique, mais pas seulement, enfin nous on connaît mieux celle-là, et en général d'excellente qualité, parce que ce qui est important c'est d'avoir des semences, de l'or germé de bonne qualité, mais aussi de l'eau surtout, hein, qui intervient bien sûr dans la fabrication de la bière et la technique. Hein. On évoque aussi un moulin avec une scie pour scier les grumes.
Oui.
Eh bien, cette scie, on la connaît grâce à un dessin de Villard de Honnecourt, qui est un des premiers architectes qui a dessiné. Et on voit que c'est un instrument tout à fait extraordinaire. On en a donc le dessin. C'est un petit peu difficile de le comprendre de départ parce qu'on n'a pas le même sens de la perspective au Moyen-Âge qu'un peu plus tard, c'est-à-dire à la Renaissance. Mais on voit bien que le système est un système à cames et que le rappel de la scie se fait grâce à la flexibilité d'un roseau qui ramène évidemment la scie à son point de départ. Et c'est tellement efficace, et je le cite souvent, c'est tellement efficace cette scie que dans le sud de la France, on va l'interdire. Je pense dans le Mercantour, par exemple, parce que ça participe de la déforestation. Hein, on a une scie et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe. C'est vrai aussi que la révolution, entre guillemets, la Renaissance du 12e nécessite énormément de bois pour les maisons, pour l'industrie, pour la verrerie, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, cette lettre est pour nous, évidemment, quelque chose d'important comme témoignage, même si encore on doit la considérer avec un peu de discernement. Alors il continue ensuite, veux-tu en un mot entendre ce qui se rapporte à ces mêmes convers ? Alors, je vous rappelle, les convers, ce sont les ouvriers agricoles ou les artisans. Remarque que leur réfectoire et leur dortoir, où je n'étais jamais entré jusqu'à cette heure, sont tout à fait semblables, comme le reste, à des palais royaux. Oui, bon, ça on peut en douter quand même. La fréquentation assidue du sage et dévot Charles V, qui régnait depuis peu de temps sur les Français, et aussi les somptueux tombeaux des 9 évêques fatueusement édifiés à l'intérieur de chaque côté du grand hôtel, avec de très hauts pinacles, qui, loin d'être un inconvénient, contribuent, ce qui va t'étonner, à l'élégance de l'église. Tout cela suffit à montrer la dignité et la sainteté des lieux. C'est tout à fait exact. Effectivement, les évêques de Senlis, très longtemps, ont préféré venir se faire ensevelir, n'est-ce pas, inhumer dans l'église de Chaly plutôt que dans la cathédrale. C'est vrai, on l'a vu lors de précédentes émissions, que Charles V vient souvent à Chaly et a participé à sa reconstruction. Rappelez-vous ce qu'on a dit à propos des fleurs de lys. Alors, je continue la lettre pour ne pas être moi aussi trop long. D'autant que ces prélats, dont l'un fut archevêque d'Apamée et deux autres chanceliers de France, il parle du chancelier Guérin, un des vainqueurs de Bouvines, ont préféré reposer en ce lieu plutôt que dans leur propre diocèse. Vous voyez, il le dit lui-même. Et que cela ne te surprenne pas, de cette maison est sorti, n'est-ce pas, Saint Guillaume de Bourges, qui, après avoir pendant 10 ans dirigé ce monastère avec habileté, brillant par des œuvres de piété de nombreux miracles, fut appelé contre son gré à l'épiscopat de Bourges. Alors, en ce qui concerne les autres saints hommes, pour ne pas te retenir longtemps, dit-il, je te renvoie au martyrologue si tu désires te renseigner. En plus, est apparu à la même époque un religieux nommé Guillaume, qui composa 3 fameux ouvrages que l'on retrouve partout entre toutes les mains, au sujet des 3 pèlerinages, celui du Christ, cela s'entend celui de l'âme, celui de la vie humaine, avec de nombreux commentaires de l'écrire sainte et plusieurs prières débordant de piété et de ferveur. Et vous voyez que là, ceux qui nous ont suivis ont le droit à un supplément. Hein, ils viennent de reconnaître ce fameux moine de Chaly qui se nomme Guillaume de Digulville. Voilà. Et dont nous avons évoqué les œuvres. Une dont on ne parle pas là dans cette lettre, entre autres, c'est le roman de Fleur de Lys qui met petit à petit en place ce qui allait devenir le blason de la Maison de France. Vous voyez, tout cela permet aussi de donner du sens également à cette lettre, même si par ailleurs, il a tendance à enjoliver, bien sûr, son récit. Eh bien, si on continue cette fameuse lettre, on s'aperçoit que les relations avec l'Antiquité sont omniprésentes également. Et quand il parle de l'apiculture, évidemment, il évoque Virgile, qui, comme vous le savez, a écrit de nombreux textes à propos de l'élevage des abeilles, hein, et de leur organisation, de leur utilité. À propos des moines, il dit « Leur supériorité dans l'art de l'arboriculture est telle qu'ils font la jalousie de tous leurs voisins. Ben oui, on connaît le rôle des abeilles dans la pollinisation et on comprend très bien qu'ils lient les abeilles avec les vergers. Et suivant le conseil de Virgile lui-même, qui ne voulait pas que les chiens fussent le dernier objet des soins, comme d'autre part ils désirent conserver leurs droits sur leurs bois et leurs terres de grande étendue, ils ont de nombreux chiens de chasse, dont la poursuite des bêtes sauvages et l'affreuse mélodie de leurs aboiements pourraient séduire les amateurs. Oui, hein, on ne s'attend pas à trouver des chiens de chasse dans une abbaye. Mais ben oui, mais on est dans les bois. Hein. Et il y a parfois des bêtes qui peuvent être dangereuses, parfois les sangliers, parfois... Alors les loups, peut-être, il ne faut pas exagérer non plus, je n'ai pas assez de compétences pour en juger, j'en doute tout de même. Hein. Surtout que le terme de bête fauve, par exemple, qu'on va employer régulièrement, ça concerne les cerfs, etc. Mmh. Hein, donc ça ne veut pas dire que c'est des méchants avec des grands crocs qui vont manger les petits moines. Hein. Il continue. Cependant, il ne faut pas penser que les saints hommes agissent comme les disciples de Mercure qui font tout par intérêt. Donc ce ne sont pas des gens intéressés, les moines. Hein. Mais ils agissent selon le commandement divin.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, avec pour tout bénéfice, tu recevras le centuple et tu posséderas la vie éternelle.
Il y a aussi des ordonnements ecclésiastiques. Alors je continue, je ne vous cacherai pas que j'ai enlevé un certain nombre de descriptions à propos de ces ornements ecclésiastiques, les fibules d'or qui attachent la robe pourpre, enfin, etc. Les habits ecclésiastiques sont tous brodés d'un or délicat. Enfin bref, tout ce qui convient au vestiaire est très riche en tout, dit-il. Mais que ceux qui se délèguent de voir quantité d'images saintes ne s'attendent pas à en voir partout sur les autels. Selon la tradition de leur père, un simple Christ en croix ou encore le patron de l'autel peint sur le mur en face du célébrant leur suffit largement. N'oubliez pas que Saint Bernard interdit, en quelque sorte, l'iconographie, interdit tous ces monstres affreux que l'on voit parfois dans l'église romaine, interdit la représentation d'une façon générale, et donc l'imagerie, en quelque sorte, est réduite au minimum. Cependant, il y a un endroit à retirer, un lieu qu'on appelle le trésor. Et nous l'avons à peu près repéré dans les ruines actuelles.
Une masse ignorée d'argent et d'or, mais de reliques et d'ornements précieux, et un conservatoire d'autres objets sacrés d'une telle qualité artistique que les décrire mériterait non pas mon incapacité à écrire, mais bien plus justement le très grand génie de Carnéade et de Pindare.
Nouvelle référence, là, encore une fois, à l'Antiquité. Autrement dit, il nous dit, ce trésor, c'est pas la Banque de France avec les lingots. Hein. Oui. Ce trésor, c'est bien la qualité des reliques, la qualité des ornements précieux, qui sont évidemment liés avec l'exercice de la liturgie. Alors, il reprend après l'éloquence de Cicéron, encore une fois, une citation de l'Antiquité, oui. Ne suffirait pas à développer combien il est beau de voir chaque jour comme exemple de componction et de contrition, les religieux de ce monastère, à la manière des colombes, deux par deux. Ah, c'est une description tout à fait poétique. Vous les imaginez, donc, les moines, hein, comme des colombes. Ah oui, ils ont une coule presque blanche. Hein. Donc, ils sont deux par deux, et ils entrent dans la salle capitulaire, et les genoux fléchis, le corps prosterné, la tête inclinée vers la terre, se confesser mutuellement ici même, aussitôt après, sans un regard, sans une parole, excepté la prière, arriver très humblement à l'autel. J'ajoute qu'il ne se passe pas une heure, il ne soit occupé utilement d'une façon ou d'une autre, de la bonne santé de l'âme et du corps, observant pour conclure enfin ce que l'on rapporte des frères et des disciples d'Origène, jamais en sa présence, il n'avait pris un repas sans une lecture. Vous savez que c'est une tradition, au moment du repas, il y a un lecteur qui donc lit des passages de la Sainte Écriture, que ce soit le jour ou la nuit, les prières se succèdent aux prières et se succèdent également aux lectures. Et Saint Jérôme ajoute à tout cela au sujet des mœurs de la vie de nos religieux.
La vérité est que dans la bourgade du Christ, tout est rusticité. Hormis les psaumes, c'est le silence. De quelque côté que l'on se tourne, c'est le laboureur qui, tenant le mancheron, chante Alléluia. Tout en sueur, le moissonneur se distrait en psalmodiant. Et le vigneron qui taille la vigne avec son sécateur recourbé chante quelques poèmes davidiques. Telle est en ce qui est fait ici la poésie, tels sont, comme on dit, les chants d'amour.
C'est assez gracieux. Hein, oui. Voilà. Alors il continue là encore, et en évoquant une salle, il dit même une grande salle de ce lieu, très ancienne, qui pourrait toucher le ciel. Oui, bon, là, c'est le poète qui parle. Nullement habité, si ce n'est par les hiboux et autres oiseaux de nuit. Comme les fenêtres qui ne jouent plus leur rôle ne les empêchent pas d'y entrer, il y a là un vieillard laïc très pauvre, plus de 80 ans.
Encore.
C'est incroyable, qui partage la compagnie des oiseaux. Il a dédaigné une bonne petite pièce qui se trouve sous la salle avec une bonne cheminée. Et en été comme hiver, selon le temps, dans cette pièce, il aurait pu facilement s'étendre ou se tenir debout, mais non, il veut écouter personne. Et il refuse d'aller coucher ailleurs que dans cette grande salle tellement inhospitalière. Il ne change son unique vêtement de laine, pas même une fois par an. Après aller à l'église pour prier, ce qu'il n'omettait aucun jour pour tout l'or du monde, il vit selon la doctrine de l'apôtre du travail de ses mains, et à la star de Jérôme qui écrivait sur, quelque part en parlant de lui-même, « C'est par nos mains chaque jour, c'est par notre sueur que nous nous procurons notre nourriture. » Alors, notre nourriture, pardon, c'est bien là, bien sûr, la fonction du moine qui est à la fois accomplit un travail matériel, mais aussi, évidemment, répond à une charge spirituelle. Il en cite un autre après. Un enfant d'à peine 12 ans, au service de la cuisine, qui supporte l'abstinence à tel point que par les grands froids de ce mois de décembre, tel qu'on n'en a jamais vu, pieds nus, ne suivant les conseils de personne, n'a voulu revêtir ni capuchon, ni culotte, telle est son innocence, n'est pas Sicile, ni même un autre vêtement à l'exception d'une seule chemise de chanvre couvrant à peine les parties honteuses. Vous voyez la hauteur. Mais s'il fallait d'abord mettre en voleur, j'ai oublié de t'en parler, c'est la grande route pavée qui conduit à Paris, car de chaque côté de cette route, à droite et à gauche, croisent des bois entourés de murs. Et ce qu'il faut signaler, si nous sommes attentifs à la piété comme à la beauté, c'est que trois croix de pierre qui se touchent se dressent à la limite du pavement. Elles font voir le crucifié vivant aux paysans et aux hommes simples, celui dont la mort sur la croix nous a sauvés par sa toute-puissance, en quelque sorte. Elle terrifie les mauvais esprits et les met en fuite. Alors on peut repérer de nouveau ce lieu, c'est ce qu'on appelle la croix de Saint-Guillaume, ou la croix Guillaume, qui se trouve donc non loin de la grande allée qui mène à Chaly, entre la route nationale 330 que vous connaissez, et la baie de Chaly. Je vais résumer un peu la suite pour éviter d'être trop long encore une fois, je me répète, mais c'est vrai, ce texte est fantastique, on a du mal à le censurer en quelque sorte. Ensuite, il nous parle du réfectoire. Alors c'est un bâtiment extraordinaire, 74 pas, d'une telle hauteur qu'on n'a jamais vu de plus élevé, on l'appelle le grand réfectoire. Mais là, il ne manque pas d'humour, il dit, on l'appelle le grand réfectoire, mais il mériterait plutôt d'être appelé l'immense glacière. Car, voilà ce qu'il dit, c'est dans celle-là, en toi compte du remède, qu'on mettait habituellement les malades et les malportants, au mépris du froid, sans feu. Tu imagines bien, ils ne sortaient de là, ce que j'admire au plus haut degré, que lorsqu'ils étaient, comme on dit, morts pour être enterrés ou bien guéris et capables de servir le monastère, dans les exercices spirituels ou bien dans les travaux des champs. Ce qui permet de comprendre qu'on ne rencontre ici que des personnes actives, et que tout le monde soit occupé d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est une façon assez redoutable. Ils sont dans un bâtiment où il fait froid. Enfin bref, c'est un peu marche ou crève en quelque sorte. C'est pour être un peu trivial. Dans le réfectoire, donc l'autre grand bâtiment, au moment du déjeuner, en ce qui concerne le dîner, bien sûr, on n'en fait pas mention pour un tiers d'année, c'est jeune, il y a tant de silence, tant de paix qu'on entend une lecture de la parole de Dieu que si un aveugle entrait, il penserait qu'il n'y a personne, bien qu'il y ait une multitude de gens, au milieu des fontaines jaillissantes d'eau vive, douce et limpide, autant qu'on peut le dire. Ce n'est pas la nourriture à portée de la cuisine, si brûlante soit-elle, qui risque de nuire un tant soit peu par sa chaleur aux dents de ceux qui sont assis au fond du réfectoire. Tant est grande la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture...
Alors, il froide au fond.
Elle arrive complètement. Le réfectoire est tellement, voilà, tellement grand que il risque pas d'avoir des problèmes de caries dentaires, puisqu'il n'y a pas de chaud et froid. La nourriture est toujours glacée. Alors ensuite, il va y avoir toute une partie qui va être consacrée à une poésie à propos des petits oiseaux. Et là, bien sûr, on peut penser à Saint-François d'Assise, mais que nous n'aurons pas le temps d'évoquer maintenant. Et il faudra attendre une prochaine émission.